France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Elle a écrit la bagatelle de 160 livres. Ses premiers lecteurs ont la cinquantaine aujourd'hui. L'immense écrivaine jeunesse, mais pas que, franco-américaine, Suzy Morgenstern sera mon invitée à partir de 13h. Mais vous le savez désormais, la première partie des midis est dédiée à la critique. Aujourd'hui, avec une programmation consacrée à l'actualité de la bande dessinée, trois albums. Elsie A, publié chez Dargo, Why Don't You Love Me, chez Atrabile, et La Fin du Monde, édité par l'Association. Vous écoutez les midis de culture, ne bougez pas, on arrive. Et pour débattre autour de la table, aujourd'hui, Victor Massé de l'Épinay, rédacteur en chef adjoint du Pèlerin.
Bonjour.
Antoine Guillot, journaliste, critique de cinéma et de bande dessinée, producteur de l'émission Plan Large sur France Culture. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Et on part pour le Mexique au début du XXe siècle avec cet album intitulé Elsie A et publié chez Dargo. Elsie, c'est Elsie Applebaum, une jeune occidentale qui débarque dans un village perdu du Yucatan. Elle est à la recherche de son mari archéologue qui ne donne plus signe de vie depuis des semaines. Elle va donc s'enfoncer dans la forêt en compagnie d'un guide autochtone. Mais l'un comme l'autre porte des blessures psychiques importantes. On doit ce livre au duo Cyril Pedrosa et Roxane Morey qui s'était fait remarquer avec le très bel H d'or, déjà publié chez Dargo. Et pour illustrer ce voyage mexicain, ils se sont alliés à Karine Bernardou. Quelques mots rapides, Victor Massé de l'Épinay.
Eh bien, c'est une bande dessinée à la fois classique et très contemporaine. Et ce qui m'a vraiment emballé, c'est le dessin, les couleurs et la grande réussite formelle qu'on doit donc à Karine Bernardou, comme vous venez de le dire.
Antoine Guillot.
Oui, c'est les couleurs aussi, évidemment, qui frappent d'emblée. C'est un au cœur des ténèbres très féminin, très coloré, sachant évidemment que les plus grandes ténèbres sont toujours intérieures.
Alors, Victor Massé de l'Épinay, classique et contemporain à la fois, pourquoi ça ?
Eh bien, classique, parce que c'est une bande dessinée d'aventure au début du XXe siècle dans la jungle mexicaine, vous l'avez dit, avec une histoire d'archéologie, de trésors enfouis, d'objets mystérieux, de pouvoirs magiques, de chamanisme. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on connaît, qui forment une sorte de corpus assez cohérent, contemporaine, puisque vous avez cité l'âge d'or de Roxane Morey et Cyril Pedrosa. Je crois que c'était chez Dupuis.
Ah, chez Dupuis, pardon.
Mais c'est pas grave. Avec une fable médiévale, avait réussi à insuffler dans cette fable beaucoup de thématiques contemporaines. Et là encore, c'est ce qu'ils font dans ce cadre un peu constitué de l'aventure archéologique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thèmes très contemporains, de féminisme, de pensée décoloniale, de violence familiale, conjugale. Et de réflexion sur l'inconscient et la façon dont tout ça aujourd'hui constitue nos imaginaires, tout ça est relu dans les histoires de traumatismes aussi. Donc voilà. Et alors la réussite formelle, c'est vraiment ce qui frappe d'emblée quand on ouvre l'album. La première séquence qui fait 4 pages est une séquence muette absolument magnifique où on voit donc un petit fétiche ou quelque chose de un objet en bois qui est dégagé de la vase par un poisson et qui remonte à la surface, et on suit son trajet entre un Indien qui le trouve, qui le donne à un cultivateur de maïs, qui le vend sur un marché à un colon ou un occidental, ça part en paquebot, ça arrive chez cette Elsie A qu'on découvre et qui a l'air stupéfaite en le découvrant, et ça réveille quelque chose chez elle. Et cette Elsie A va donc partir à la recherche de son mari dans la jungle. Et là, on va croiser tout un tas de personnages secondaires assez hauts en couleur. Qu'on peut imaginer le méchant industriel, les Indiens, les bandits un peu bracassés. Mais les couleurs, l'aquarelle en particulier, et les lettrages aussi, qui sont très beaux, c'est écrit à la main, à la plume, avec une écriture très élégante. Tout ça fait que formellement, c'est d'abord une très grande réussite.
Antoine Guillot.
Oui, alors cet objet, c'est un peu le retour du refoulé, et c'est d'ailleurs une des intelligences, de, à la fois en termes de récit, de personnages et politique de ce livre, de faire une sorte de convergence des luttes, qui parle à la fois des questions, effectivement, de la violence des hommes et du patriarcat en général, et les questions décoloniales. Donc ça le tresse, mais de manière jamais lourdingue, militante, mais comme, effectivement, une sorte d'anamnèse à faire pour un personnage. Pour ce personnage féminin, pour retourner à la source du trauma, comme effectivement on remontait le fleuve dans Au cœur des ténèbres. Et les différentes figures décrites par Victor qu'elle croise sont toutes des incarnations d'un pouvoir masculin. Le premier, c'est un pouvoir spirituel en principe, mais d'un moine d'un curé méprisant complètement les populations indigènes qu'il est censé évangéliser et trouvant dans cette jeune fille à la fois la civilisation qui lui arrive et puis probablement quelques désirs enfouis qui ne demandent qu'à s'exprimer. Vient ensuite une figure je sais plus, c'est un
gouverneur,
militaire, enfin voilà, gouverneur, policier, donc vraiment le pouvoir temporel qui est là, et puis elle va remonter et rencontrer des industriels, toute sorte d'incarnation de ce que le mâle blanc occidental a pu faire de mal non seulement aux femmes mais à la planète en général, parce qu'il y a aussi la question écologique qui est abordée dedans. Alors tout ça pourrait sembler programmatique et d'un ennui un peu descriptif. La force à la fois du récit et du dessin vient du côté fantasmatique en fait qui très vite surgit, c'est-à-dire que sans arrêt elle charrie avec elle ses démons intérieurs. Il y a une sorte, on le voit dès la couverture, d'homme cerf qui semble sorti vraiment d'un archaïsme plus occidental d'ailleurs. Hein, ça ressemble à ce dieu gaulois qui incarnait à la fois les saisons, le pouvoir masculin et qui revient régulièrement d'ailleurs hein, dans diverses œuvres. Il est en couverture des Enfants pâles aussi, je me souviens de Philippe Dupuis et Louis Fang. Donc c'est comme si elle emmenait vraiment ses démons à elle sur ce terrain, mais qui vont contaminer littéralement la région. C'est une sorte de pollution mentale et mystique qui s'opère, puisque toutes les jeunes femmes indigènes deviennent des sortes d'hystériques telles qu'on les définissait à l'époque. C'est-à-dire que la névrose occidentale les atteint. Voilà. Et ça, c'est assez passionnant parce que tout d'un coup, tout le monde est désemparé. C'est-à-dire aussi bien les curés qui voudraient les faire venir chez les bonnes sœurs pour les soigner. Évidemment, ils n'y arrivent pas du tout. Mais même les vieilles méthodes chamaniques qui étaient censées guérir sont complètement dépassées. Donc, il y a un déplacement, il y a un désordre total qui est créé par cette histoire. On ne dira pas ce qui s'est passé au bout du compte, mais retourner la violence contre le patriarcat, ça fonctionne pas toujours. C'est aussi ça que ça raconte. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple de se dire il suffit de se débarrasser des méchants hommes pour que tout aille mieux. Maintenant, ça provoque encore d'autres traumas.
Un tout petit dernier mot, Victor Massé de l'Épinay.
Parce que parmi toutes ces figures masculines, il y a celle du mari qui est le grand absent et qu'elle va chercher, qui a l'air d'être une figure idéalisée de l'homme bon, viril, protecteur. Voilà, la virilité dans tout ce qu'elle peut avoir de beau et la quête et cet ordre-là. Un mot encore sur l'aquarelle qui est vraiment le...
Alors, je crois que c'est pas de l'aquarelle. Hein. Il me semble que ce sont des encres de couleurs, ce qui produit un effet tout voilà. Différent précisément parce qu'il n'y a pas les mêmes transparences et il y a surtout une vivacité. On n'est pas du tout dans les pastels, on est dans des couleurs qui sont presque fluo ou psychédéliques par moments. Ça donne presque l'impression à la fois que la lumière émane des personnages ou qu'on est sur une scène de théâtre où il y a des projecteurs de couleurs qui sont mis sur eux. Et ça, c'est très très beau à voir.
Alors, bravo pour les angles de couleurs, mais je voulais précisément pointer en tout cas ces fluidités et ces jeux de transparence et de superposition qui reflètent et qui illustrent parfaitement les errances intérieures, les réalités à double fond que Elsie va découvrir dans sa quête.
Et donc, ces dessins, ces couleurs que l'on doit à Karine Bernadou, Elsia de Pedrosa au scénario et Roxane Morail également au scénario, c'est chez Dargaud.
Why don't you love me?
Why Don't You Love Me, l'ambiance générale de la BD du même titre dont on va parler tout de suite est certes un peu moins joyeuse. Voyons plutôt, dans un noir et blanc tranché, l'auteur britannique Paul B. Reilly nous raconte la vie quotidienne de Claire et Marc. Et ça ne va pas fort. Claire traîne à la maison en peignoir, elle fume, elle boit, Marc lui est complètement paumé. Et au milieu, au beau milieu de tout ça, leurs deux enfants sont livrés à eux-mêmes. Heureusement que c'est drôle, sinon ce serait à pleurer. Et soudain, au beau milieu de cet album, un twist vient tout bousculer, on n'en dira pas plus. On commence par un avis rapide, Antoine Guillot.
C'est une vraie découverte que ce Paul B. Reilly, qui a plusieurs livres à son actif, mais c'est le premier qui est traduit en français, donc on a hâte de découvrir ce qu'il a fait ailleurs. Pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble, si Mike Leiss mettait à la bande dessinée et adaptait un roman apocryphe de Philip K. Dick, eh bien ça donnerait à peu près ça.
Victor Massé de Lépine.
Eh ben aussi une très belle découverte, un livre assez prodigieux, et je trouve ça toujours très étonnant le nombre d'auteurs anglo-saxons en particulier qu'on a encore à découvrir et qu'on découvre régulièrement grâce à des maisons comme Atrabile ou d'autres. Et c'est toujours vraiment frappant de découvrir un auteur qui a une soixantaine d'années, beaucoup de livres derrière lui, qui sont manifestement pas des petits livres, donc c'est vraiment une très très belle découverte.
Antoine Guillot, faudrait décrire un peu l'ambiance, j'ai parlé très vite du noir et blanc, le format. Les strips sont très particuliers.
Alors voilà, il faudrait commencer par le format. C'est comme si c'était un recueil de pages du dimanche de strips, c'est-à-dire c'est pas la bande horizontale de 3 ou 4 cases. Là, il y a un format qui revient sans cesse, qui est un format de 11 cases. En fait, c'est comme un gaufrier de 3 fois 4, sauf que la première case, c'est celle du titre. Le titre « Why Don't You Love Me » revient à chaque fois, donc c'est vraiment comme ça dans les recueils de pages du dimanche des strips, mais c'est aussi une interrogation lancinante, c'est-à-dire que ça revient à chaque fois, mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Et on n'identifie pas tout de suite qui dit ça. Le moment où on comprend qui le dit est particulièrement déchirant. C'est vraiment encore plus que le twist dont vous parlez. Tout d'un coup, on se prend ça en pleine figure, alors que c'est un livre qui, à cause de ce format, a quelque chose un peu de la musique répétitive. C'est-à-dire qu'on a sans cesse le même motif qui revient, ses parents complètement paumés, en pleine dépression, qui n'arrivent même pas à nommer leurs enfants, qui demandent des tuyaux à leurs enfants sur « mais qui est la personne sur la photo ?»« Mais c'est tu es bête, maman, c'est mamie. »« Ah oui, mais laquelle la mienne ?» C'est ma mère ou celle de mon conjoint. Voilà. Des moments qui pourraient être complètement sordides, mais effectivement qui ont un humour méchant et désespéré en même temps qui est extraordinaire. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans ce livre, qui est quand même très épais, hein, il fait près de 250 pages, 220 pages, je crois. On peut pas le lire d'une traite, par exemple, tellement c'est fort, tellement c'est... Et tout d'un coup, on est pris par quelque chose qui nous oblige à le lire d'une traite et à le relire ensuite. La relecture de ce livre est évidemment encore plus savoureuse parce que tous les indices qu'on pouvait suspecter, enfin qu'on n'avait pas complètement identifié, compris, prennent un sens qui là encore est complètement à la fois réjouissant et déchirant. Ça a beaucoup à voir avec la série télévisée moderne. Moi, je pense beaucoup aux séries de Lindelof, comme Lost ou comme The Leftovers. Mm-hmm. Ça fonctionne vraiment précisément là-dessus. Ça va être adapté au cinéma, malheureusement, pas par Mike Leigh, mais par Ari Aster. La bonne nouvelle, c'est que ça sera avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal. Mais on se dit que c'est vraiment fait pour le format télé. Et ça aurait fait une série absolument extraordinaire.
Voire une sitcom, presque. Ah.
Oui, mais il y a un principe noir de sitcom. Il y a d'autant plus un principe de sitcom que les personnages eux-mêmes ont l'impression d'être dans une sitcom. Et ça nous dit quelque chose, il me semble, de très juste par rapport à nous, adultes, essayant de faire des choses, de faire croire qu'on sait ce qu'on fait. C'est qu'en fait, comme le dit le personnage à un moment, un petit garçon qui est sur un siège en train de se faire couper les cheveux, il dira, écoute, je vais te dire le vrai secret du monde, c'est que les adultes n'ont aucune idée de ce qu'ils font.
Victor Massé de Lépine.
Oui, bah, on est décidément assez d'accord avec Antoine. Il a dit trois mots importants que je voulais développer. D'abord,
c'est déjà ça.
D'abord, le mot déchirant, qui est vraiment... Alors, il a évoqué cette scène, on va pas la raconter, mais ça commence comme une critique sociale, comme une chronique sociale très noire, vous l'avez raconté, entre deux parents dépressifs, alcooliques, apathiques, qui ne savent plus où ils sont, qui ne savent plus où ils habitent. Au milieu de, entre eux, il y a deux enfants qui sont des victimes, vraiment les victimes pures et innocentes, ça qui passent leur journée devant la console ou devant les écrans parce que c'est les meilleurs babysitting et qui ne mangent que des pizzas surgelées.
Et on ne peut pas s'empêcher d'être, enfin, d'avoir une profonde empathie pour ses enfants et de trouver que ça devient de plus en plus dur. Et la maman en particulier, qui prend un amant, qui se fait surprendre peut-être par son enfant, devient violent, devient cruel. Et c'est vraiment très, très dur. Mais le deuxième mot, c'est le mot indice qu'Antoine a dit, parce que cette première partie, avant ce twist, est parsemée d'indices qu'on n'arrive pas à comprendre avant la relecture. Ça, c'est le troisième mot. Les indices qui nous montrent que dans cette réalité, dans ces 100, 150 premières pages, peut-être, il y a des choses qui paraissent étranges. Il y a un chauffeur de taxi qui rend la monnaie en euros, et puis le Marc lui dit, mais enfin, on est en Angleterre, il faut me rendre des livres. Mais non, mais les euros en cours. Bon, alors ça se clôt. Il y a la femme qui va devant une maison, le 23 de sa rue, pour la regarder pendant des journées entières, puis qui un jour entre et il y a quelqu'un qui est là et lui dit ah, vous n'avez pas tardé à me remplacer. Et puis la personne est complètement effrayée, dit mais qu'est-ce que vous racontez madame, j'appelle la police. Alors on se dit elle est complètement hystérique, mais on sent bien qu'il y a quelque chose, un décalage qui est là, qui se met en place et qui va être en effet révélé, mais pas non plus révélé de manière très très franche pour le lecteur. On comprend qu'il y a quelque chose qui se passe, qui a à voir avec l'actualité internationale, qui a à voir avec des nouvelles.
Ce qui est terrifiant, c'est que ça a à voir avec l'actualité internationale d'aujourd'hui.
Oui. Parce qu'à un moment, ça...
Écoutez les infos tout à l'heure, si vous avez lu le livre avant, vous serez complètement terrifié.
On peut le dire, ça sans... parce que ça n'explique pas tout, mais ouais, en effet, il est question des relations Iran-États-Unis. Alors, quand on le lit cette semaine, en effet, c'est très frappant. Mais en effet, le grand plaisir, c'est la deuxième lecture. Et c'est vraiment un livre qu'on peut recommander non seulement aux amateurs de bande dessinée, mais à tous les amateurs de fiction et de construction narrative et de façon dont on peut tordre un peu toutes ces réalités tordues, réalités parallèles, où est la vérité, etc. C'est vraiment remarquable.
Et Paul B. Reilly donc avait déjà écrit quantité de bandes dessinées, d'albums, de fanzines, enfin...
À moins que tout ça soit complètement
soit faux.
c'est pas impossible non plus qu'ils aient inventé ce personnage, de même qu'il est question dans ce livre d'un groupe imaginaire qui se reforme 20 ans après juste pour appâter les spectateurs, ce groupe n'ayant jamais existé, My Imaginary Band. Et peut-être que Paul B. Reilly est un homme imaginaire, ou alors, je ne sais pas, l'hétéronyme d'un grand auteur. En le lisant graphiquement, ça ressemble pas mal à du Daniel Clowes, mais oui. Daniel Clowes qui aurait pris un pinceau et qui ferait ça très très vite, à l'arrache. Parce que c'est d'autant plus frappant cette histoire, où c'est vraiment très dense, beaucoup de dialogues, c'est que le trait est presque ingrat, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas là, c'est tout le contraire de Elzia qui vous en met plein la figure et plein les yeux dès que vous l'ouvrez. Là, il faut quand même y rentrer. Donc c'est un conseil au lecteur, n'ayez pas peur de ce livre, ça mérite vraiment de s'y mettre et vous en serez amplement récompensé.
Victor ?
Oui, le Daniel Clowes un peu dernière période qui quelquefois dessine moins bien. Les traits, les visages apparaissent un peu bâclés. Moi, j'étais surpris. Je suis pas un immense spécialiste de la bande dessinée anglo-saxonne, mais j'aurais parié que c'était un Américain. Et enfin, il se trouve que c'est un Anglais, parce qu'il y a quand même du Will Eisner dans les traitements des atmosphères, certains décors un peu hachurés, et un peu de on peut penser à Burns aussi dans l'atmosphère. Mm-hmm. On peut penser à Chris Reynolds. Je sais pas si vous voyez cet auteur qu'on avait découvert aussi. Ça, c'était grâce aux éditions. C'était qui avait publié quelque chose qui s'appelait Mauritania. Mais ça fait partie de ces, voilà, il y a des filiations, il y a des généalogies dans ces auteurs anglo-saxons alors, et qui sont vraiment intéressantes et qui sont quand même un continent à explorer et à découvrir encore, je crois, en France.
Antoine, un dernier mot, non?
Ah oui, non, j'approuve entièrement, rien que la couverture et la quatrième se regarde et vous jette dans un effroi qui ressemble à votre quotidien, quoi.
Why Don't You Love Me par Paul B. Reilly, que je vais arrêter d'appeler Reilly, chez Atrabil, et c'est traduit de l'anglais par Christophe Gouveia-Roberto.
Très bien traduit d'ailleurs.
Moi, je suis arrivé à la bande dessinée avec Le Journal de Spirou et puis Tintin, puisque Tintin, c'est avant-guerre aussi, mais enfin, c'est toujours d'actualité. Et j'ai découvert, oui, sur le tard, Ziggy Puce, et chez mes grands-parents, dans une armoire tout en haut de la maison, un vieux livre qui sentait la poussière. C'était un souvenir très émouvant. Et Ziggy Puce, Saint-Augan, son travail, c'est à la fois une stylisation très poussée du dessin, et avec une vie, quoi. Il y a une vie, un charme, une vie. Et c'est surtout ça que je recherche, moi, dans le dessin, c'est la vie, en fait, le charme.
dernier auteur de cette sélection, Stanislas, qu'on vient d'entendre parler de ses amours dessinées. Hergé, Alain de Saint-Augan, le créateur de Ziggy et Puce, sont très présents dans cet album La fin du monde, paru à l'association, une maison d'édition que Stanislas a d'ailleurs cofondée avec, entre autres, David B., Lewis Trondheim ou Jean-Christophe Menu, qui est également représenté ici. Car c'est dans ces rêveries que Stanislas nous embarque. Elles partent toutes ou presque d'une étrange boutique de bric-à-brac appelée par-ci par-là, et qui engage le client à changer de vie. Résultat, 10 petites histoires poétiques, absurdes et légères. Quelques mots, Victor Massé de l'Épinay.
Eh bien oui, vous avez dit que c'était un des fondateurs de l'association, Stanislas, et ce livre a l'ADN originel de l'association, c'est-à-dire que c'est un livre à la fois formellement très réfléchi, très savant, et qui cherche du côté de l'intime, donc c'est parfois un peu hermétique, mais très intelligent et plein de charme.
Antoine Guillot.
Oui, la spécificité de Stanislas au sein de l'association, c'était d'avoir toujours eu le style en apparence le plus classique, mais c'est une preuve, ce livre, que la ligne claire peut être particulièrement obscure, peu qu'on n'en ait pas les clés. C'est un livre qui a besoin d'une exégèse, et je ne sais pas si nous aurons en 6 minutes le temps de le faire.
Je compte sur vous. Allons-y, Victor Massé de l'Épinay.
Non, mais c'est vrai, en effet, c'est un livre qui nécessite une exégèse. Je ne connais pas assez bien l'œuvre de Stanislas pour pouvoir la faire complètement. Et de toute façon, on n'aurait pas le temps. Mais il y a une dizaine d'histoires qui tournent autour d'une librairie, enfin d'une petite maison, magasin de souvenirs dans lequel on trouve un bric-à-brac extraordinaire de tout ce qui fait le paysage mental, émotionnel, artistique de Stanislas. Beaucoup dans cette vitrine qu'on voit souvent, dans ce bric-à-brac un peu changeant, beaucoup d'objets qui évoquent ses livres précédents, les albums d'Hergé, les albums de Jacobs, d'autres choses de l'association, et beaucoup de ses propres archives à lui. Je me suis amusé, il n'y a pas de sommaire à la fin de ce livre, et je me suis amusé à reprendre et à faire attention aux titres de ces 10 histoires. Et je pense vraiment que les titres de ces 10 histoires écrivent un chemin de vie de Stanislas. Ça commence par une histoire d'amour dans laquelle il est question de la découverte de Tintin et du commandant Charcot avec son pourquoi pas, donc quelque chose qui est de l'ordre de l'aventure. Une mémoire d'éléphant qui peut évoquer beaucoup de choses, mais à la fois Babar ou les cigares du pharaon ou Dumbo. Et puis, bon, en passant vite, il y a après des titres de livres comme Germinal, À rebours. Entre les deux, il y a Futuropolis, qui est le premier éditeur, le Futuropolis historique, qui est un peu la matrice de l'association. Premier éditeur chez qui Stanislas a écrit. Et puis, par-ci, par-là, Le dessinateur raté. Et puis, La fin du monde, qui donne son titre à ce livre. La fin du monde, ça m'évoque spontanément. Mais comme Stanislas est un tintinophile, c'est le cri de Philippulus, le prophète, dans l'étoile mystérieuse, la fin du monde en tapant sur son gong. Là, on ne sait pas bien, enfin, on peut se demander, j'imagine qu'Antoine aura des idées, j'en ai aussi, de quel monde est-ce que Stanislas annonce ou prédit ou contemple la fin. C'est sans doute la fin d'un monde où des récits de ce type étaient reçus, compris, bienvenus. J'imagine que c'est un livre qui, si on le met entre les mains de gens qui ne connaissent pas du tout Stanislas, l'association, ça peut être très déconcertant. Ça tient à la fois de... Je sais pas, on peut penser à Alain Resnais dans certains films, on peut penser à Bobby Lapointe dans des espèces de rapprochements, on peut penser à Raymond Roussel, on peut penser à toutes sortes de choses. Mais encore une fois, je crois que c'est très intelligent et que c'est un livre, en tout cas tous ceux qui aiment l'histoire de l'association, de la bande dessinée, c'est une histoire qui se raconte elle-même sans cesse, c'est un livre qu'il faut mettre dans sa bibliothèque,
Antoine,
il faut lire.
Oui, c'est un peu un livre pour initier, mais qui peut être aussi une porte d'entrée dans ce monde-là. C'est vrai que ça synthétise beaucoup de choses. D'abord, la propre vie artistique de Stanislas. On n'avait pas de nouvelles de lui. Je crois qu'il n'avait pas publié de livre depuis 2017 ou 2018. On le voyait juste faire des couvertures de livres non autorisés sur Tintin, puisque quand on n'a pas le droit, parce qu'on n'est pas passé sur les fourches codines de la Fondation Hergé ou de la structure qui lui a succédé, et qu'on a besoin d'une couverture, hop, on fait appel au grand tintinophile qu'est Stanislas, qui est très bon pour faire des portraits d'Hergé. Et d'ailleurs, on a une tête d'Hergé qui se balade sur un robot, qui est le robot de la, si je me souviens bien, du Manitoba ne répond plus, une aventure de Josette et Joko, qu'on retrouve à la fin, avec notamment une sexualisation des parents, oui. Dans la littérature jeunesse, c'est assez rare. Alors effectivement, une des clés, c'est l'avant-dernière histoire de ce tenancier de boutique à tête de Corbeau qui parle du dessinateur raté qui refait les dessins de ses bandes dessinées indéfiniment et son œuvre telle la tapisserie de Pénélope reste inachevée car le jour où il réussira ses dessins, il mourra. Et elle est peut-être là la fin du monde, c'est-à-dire reprendre effectivement toute son œuvre, le redessiner, mais pas trop bien, parce que si on dessine trop bien, après on va mourir. Et c'est vrai que ça reprend un peu tout ce qu'a fait l'association, c'est-à-dire à la fois l'autobiographie, qui était un des grands apports de l'association et d'autres structures à partir du début des années 90, mais aussi toute la dimension onirique d'un David B, par exemple, Cheval Blême et autres. Et c'est une sorte de voilà d'autobiographie, d'autopsychanalyse rêvée que fait Stanislas, avec quand même un moment qui est particulièrement déchirant, mais là encore, il faut connaître un peu l'histoire de l'association. L'association, à un moment, a splitté, s'est coupée en deux, à cause de Jean-Christophe Menu, qui a été mis dehors par les autres. Et Jean-Christophe Menu est un des personnages de ce livre, qui est quand même une façon de lui dire « reviens à la maison ». La question de la maison est là en permanence, il n'y a pas seulement ce grand bric-à-brac, mais on construit des maisons avec des cubes comme on le fait avec des cases, on passe de maisons grandeur nature, miniature, on passe sans arrêt à l'intérieur, mais ça revient quand même, j'ai l'impression que tout ce livre a été fait pour dire à Jean-Christophe Menu, à la fin de l'avant-dernière histoire, « bienvenue à l'assaut, eh bien ça me fait très plaisir de vous retrouver les amis ». Pour qui connaît un peu l'histoire de cette maison, c'est extrêmement émouvant.
Victor Massé de
l'Épée. Oui, je partage ça, je connais un peu l'histoire de l'association et il y a aussi déjà le fait de mettre Alain Saint-Augan, Hergé et Jean-Christophe Menu sur la page de garde, on imagine que c'est un cadeau quelque part que Stanislas fait à Menu et que voilà, mais ça c'est de la cuisine interne. Il y a la présence de la lune aussi, la lune, la mune de Jean-Christophe Menu, c'est une sorte de... C'est difficile d'expliquer exactement ce que c'est, mais c'est un motif au moins récurrent. Et cette histoire, ce livre se termine, qui en effet, qui tourne quand même autour d'une boutique et d'une maison. Une maison qu'on construit, une maison qui éclate sous la poussée d'un arbre gigantesque, comme dans Jack et le haricot magique. Ça se termine dans la lune. Ça se termine avec Hergé, Josette et Alfred le pingouin d'Alain Saint-Augan.
Enfin, qui parle danois dans le livre.
Voilà. Donc, et ça se termine dans la lune. Et là aussi, on peut entendre. Enfin, tout a plusieurs sous-textes. Et c'est très, très crypté, très codé. Mais en effet, une porte d'entrée. Il faut y aller avec un peu de comme un spéléologue. Mais on peut trouver beaucoup de choses intéressantes.
C'était donc La fin du monde de Stanislas, publié chez l'association. Merci Victor Massé de l'Épinay, merci Antoine Guillot d'être venu aujourd'hui pour nous parler de bande dessinée. LCA chez Dargo, Why Don't You Love Me chez Atrabile et donc La fin du monde à l'association. Toutes les références sont de toute façon sur la page des Midi de Culture. Et maintenant, vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée